Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue sur L'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Low From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Après avoir été élue Miss France, Marine L'Orphelin est devenue médecin. Pourtant, personne n'y croyait. En 2013, Marine a été couronnée reine de beauté devant plus de 8 millions de téléspectateurs. Suite à cette élection, de nombreuses opportunités se présentent à elle, mais elle ne perd pas de vue son rêve, ni ses valeurs. Elle reprend ses études et devient donc docteur généraliste. Elle cumule deux casquettes, l'une dans les paillettes et l'autre en blouse blanche. Au fil des années, elle devient également chroniqueuse dans l'émission Le Magazine de la Santé, publie un livre, Mes conseils santé pour être bien dans son corps et dans sa tête, aux éditions Marabout, est créatrice de contenu sur les sujets qui la passionnent et a également fondé une marque. Durant notre échange, vous découvrirez l'aléa qui a fait basculer son destin, en quoi l'expérience Miss France l'a transformée, ses secrets d'organisation pour cumuler plusieurs projets, ses astuces pour se remettre d'une rupture, ses meilleurs conseils pour prendre soin de sa santé mentale et physique, avec un rythme de vie effréné. Un grand merci Marine pour cette interview et merci également à mon partenaire l'hôtel Baumann pour son accueil dans son si bel établissement afin que nous puissions enregistrer cet épisode. Très belle écoute.
Bonjour Marine.
Bonjour Laura.
Enchantée d'être avec toi aujourd'hui dans cette belle suite de l'hôtel Baumann.
Eh bien enchantée aussi, merci de m'inviter.
Comment vas-tu ?
Je vais bien, un petit peu de fatigue avec ces derniers mois qui ont été intenses.
Ouais.
Mais ça y est, je retrouve mon équilibre, donc ça va bien.
Génial, bah oui, tu vas nous parler de ta vie qui est à mille à l'heure, on en a l'impression. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ?
Alors, je m'appelle Marine L'Orphelin, j'ai bientôt 31 ans. Le grand public me connaît parce que j'ai été élue Miss France il y a un peu plus de 11 ans.
Déjà. Oh, c'est ce que je me dis en même temps, ça passe tellement, tellement vite.
Ah, mais ça passe très très vite. Et je suis médecin généraliste, j'ai terminé mes études il y a 2 ans. Passionnée de sport, un peu une hyperactive. Entrepreneur aussi, je me suis associée à une amie dans une marque de bijoux qui s'appelle Jenna Jewelry. Chroniqueuse au magazine de la santé. Enfin voilà, j'ai pas mal de
casquettes.
Pas mal de métiers, pas mal de casquettes.
C'était quoi ton rêve quand t'étais petite fille, si t'en avais un?
Si j'en avais vraiment un quand j'étais petite fille, c'était plutôt d'être championne olympique.
Ok.
J'aurais adoré être sportive de haut niveau, avoir ce talent, ces compétences et vivre ces émotions. Enfin, j'imagine en tout cas celles qu'on peut vivre. Quand on remporte des championnats du monde et des compétitions olympiques. Donc ouais, j'aurais rêvé d'être championne olympique, ça c'est vrai. Mais je rêvais pas, par exemple, de mon métier. Ça c'est venu un peu après.
Ouais. Et ça te venait d'où?
Je sais pas.
La famille, ce que t'avais vu à la télé, tu sais pas?
Pas ma famille. Alors oui, mes parents sont dynamiques, on va dire. Mmh. Mais non, on n'a pas d'antécédents familiaux de champions, championnes. En tout cas, au niveau haut niveau. Je pense que ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours aimé le sport, j'en ai toujours fait. J'ai fait de la gymnastique dès l'âge de 4 ans, je crois. J'ai fait de l'athlétisme après, quand j'étais ado. Et je sais pas, j'ai toujours été passionnée de sport. C'est vrai que je suivais beaucoup les compétitions télévisées.
Ouais.
J'ai toujours regardé, pour le coup, avec mes parents.
D'accord.
Donc peut-être que c'est ça qui me donnait envie. Je sais pas.
J'aime bien me demander la question des rêves des enfants parce que souvent, en fait, on se rend compte qu'on y revient d'une manière ou d'une autre quand on grandit et quand on fait un travail sur soi.
Et ben, je vais pas te contredire parce que c'est vrai. Je t'en parlerai après, mais oui.
Moi-même, avec mes propres enfants, je leur fais faire des carnets de rêves où ils me notent tous leurs rêves. Comme ça, quand ils seront plus grands, s'ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ils pourront s'y replonger.
Ah, c'est joli.
J'aime beaucoup. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et dans tes différentes casquettes, est-ce que tu peux revenir avec nous, avec moi, sur les différentes étapes de ton parcours, en tout cas les plus marquantes, pour qu'on apprenne à mieux te connaître?
Je pense que j'ai pas besoin de revenir énormément sur mon enfance, parce que j'ai eu une enfance franchement très agréable, pas d'événements particulièrement marquants. J'étais une bonne élève, du coup très sportive, comme vous l'avez compris. Voilà, tout s'est bien passé. Voilà, famille aimante, bien soutenue. Après, je pense que la première étape, peut-être un petit peu marquante de mon parcours, c'est vers l'âge de 16 ans, quand j'ai fait mes premiers défilés de mode avec un créateur de ma ville où j'habitais, Mâcon, Laurent Crépeau, qui cherchait des jeunes femmes pour porter ses créations et qui notamment cherchait des jeunes femmes pour défiler pour le Téléthon.
Ok.
Et le hasard de la vie a fait que je me suis fait une entorse et je l'ai rencontrée par le biais du kiné, voilà. Et donc il m'a présenté ce créateur et j'ai commencé à défiler. Voilà, par hasard, en me disant, bah tiens, je vais me challenger un petit peu, je vais aller le rencontrer, ce créateur, et puis je vais me tester un petit peu avec des talons, en portant des robes, alors que j'étais un vrai garçon manqué. Et je pense que c'est un premier tournant dans ma vie, je dirais, parce que ça m'a amené après à être en contact avec le comité Miss Bourgogne et donc à m'intéresser à Miss France, alors que... Okay. Je pense que j'étais pas prédestinée à m'intéresser à ce milieu-là, qui, je pensais initialement me correspondait pas trop.
Ouais.
Donc voilà, une étape importante. Et puis après j'ai eu le bac S à l'époque, mention très bien. J'étais fière de moi, mais je savais pas trop. Enfin, j'avais plusieurs idées d'études supérieures. Je me suis tournée vers la médecine parce que j'avais envie d'un métier utile aux autres, scientifique et où j'allais devoir constamment apprendre. J'ai ce besoin d'apprendre, d'enrichir mes connaissances. Je pense que je suis assez curieuse et donc j'ai besoin de nourrir cette partie-là. Et en même temps, de prendre soin des autres. Je pense que ça fait aussi un peu partie de ma personnalité. Assez empathique, je dirais, et donc j'ai besoin d'essayer de prendre soin des autres, de les guérir. Donc voilà, après je suis partie en études de médecine, j'ai réussi la première année.
Ok. Qui est pas facile, c'est la plus dure, je crois.
Qui est pas facile, je dirais pas que c'est la plus dure quand même, mais effectivement qui est pas facile parce que très concurrentiel, surtout avec des étudiants qui sont très motivés, qui ont souvent tous un très bon niveau déjà, donc concurrentiel, mais je l'ai plutôt, ça va, je l'ai plutôt bien vécu, je l'ai passé du premier coup, j'ai eu cette chance, même si c'était pas que de la chance, hein, c'était aussi beaucoup de travail, mais et voilà, après j'étais lancée dans les études de médecine et puis après il y a eu Miss France.
D'accord. Et justement, on va reparler de cette aléa qui est vraiment une entorse que tu t'es faite et qui t'a introduit à l'univers de la beauté qui n'était pas forcément, même si tu étais, j'imagine, très jolie et tu l'es encore.
Bon, en tout cas, j'en étais pas consciente.
Voilà, t'en étais pas consciente et t'étais plutôt, comme tu l'exprimes, garçon manqué. Est-ce que tu peux m'expliquer bah, un peu plus concrètement cette arrivée dans ce monde inconnu ?
Alors, oui, j'étais garçon manqué, ça c'est sûr. J'étais en basket, je m'habillais de manière assez street, on va dire, jean, pull. Je me maquillais très peu, je me coiffais pas, toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. donc oui, j'avais pas ce profil en tout cas de vraiment de la petite fille très féminine. Mais peut-être que j'étais jolie, mais je m'en rendais pas spécialement compte et j'essayais pas de mettre en valeur en tout cas ma féminité et mon visage et mes formes.
Oui.
Voilà, c'était pas important pour moi. Ouais. Et donc, je me fais cette entorse. Donc, le kiné me met en contact avec une de ses connaissances, qui est ce créateur, du coup, Laurent Crépeau de Mâcon. Il me dit qu'il recherche en fait des profils comme le mien. J'étais déjà très grande en fait, élancée. Voilà, à 13 ans, je mesurais déjà 1m77.
Ah ouais, d'accord.
Donc là, j'avais 16 ans. Et il me dit bah, il recherche des profils comme le tien pour défiler, notamment pour le Téléthon. Je trouve que c'est une belle cause. Je me dis tiens, c'est rigolo. Je me suis jamais projetée dans cet univers-là. Et je vois ça vraiment comme un challenge en fait, en me disant. En m'interrogeant, en me demandant si j'en suis capable.
Mmh.
Et donc je me dis tiens, ça sera peut-être l'occasion de découvrir justement une autre facette de moi qui serait ma version féminine, de tester justement un peu cette féminité, de voir si voilà, je me sens à l'aise avec des talons, à porter des robes de soirée, d'être apprêtée tout simplement. Et donc je vais le rencontrer et il se trouve que c'est quelqu'un vraiment de très sympa, qui me met en confiance en fait, qui me trouve très jolie, donc c'est un peu valorisant aussi quoi. Donc je me dis tiens...
T'as quel âge à ce moment-là ?
J'ai 16 ans.
Ok, donc t'es vraiment très jeune en plus. Hein.
Oui, je suis jeune, c'est sûr. Et donc oui, c'est assez valorisant et donc je me dis bah tiens, pourquoi pas, ça flatte un peu mon ego. Et je me dis ça peut être ça, en tout cas ça n'engage, enfin quand je m'imagine m'engager avec lui et tenter ce défilé, y participer, j'y vois que du positif. Je vois pas en quoi ça peut être négatif en fait pour moi, si ce n'est je sais pas tomber sur scène avec les talons, bon mais le ridicule ne tue pas, j'ai jamais eu peur de ça, donc voilà, donc je me lance et finalement je découvre un autre univers et justement ça me fait du bien de découvrir autre chose, presque de commencer à me trouver belle effectivement. Parce que je me vois en photo justement apprêtée dans des belles tenues et je me rends compte que oui, je peux être une autre version de moi. Je suis toujours très sportive et pourtant je peux être aussi féminine.
Ouais.
Et je pensais que qu'être sportive n'était pas compatible avec justement être féminine. Je pense parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes très sportive, mais j'entends par là avec des physiques de sportive.
Non, mais je vois très bien.
Un peu carré, un peu musclé, mais être mise en avant dans les médias, dans la presse féminine, être mise en avant comme égérie de grandes marques, il n'y en avait pas beaucoup en fait à l'époque. Et donc je sais pas, pour moi c'était paradoxal, ça, antinomique, ça pouvait pas fonctionner. Et finalement, je me suis dit, bah si, ça marche. Et voilà, et j'ai pris goût, j'ai trouvé que c'était sympa. J'ai été une de ces égéries, c'est un grand mot, mais une de ces égéries pendant quelques années, du coup, à faire des shootings photos avec lui, à défiler. Okay. Et c'est comme ça que le comité Miss Bourgogne m'a repérée. En fait, ils ont vu les photos de ce fameux défilé sur Facebook. Ils ont commenté en disant la candidate, enfin la jeune femme qui porte la robe violette, je m'en rappelle très bien. La jeune femme qui porte la robe violette, elle devrait se présenter à Miss Bourgogne. Et puis ben, encore une fois, je l'avais jamais envisagé et je m'en sentais pas capable. Donc c'était un premier déclic qui m'a fait réfléchir par la suite et qui m'a amené à me présenter un peu plus tard. Pour plein de raisons, mais c'est une des raisons.
Donc tu t'es présentée. Tu peux me raconter un petit peu comment ça se passe, en fait, au cœur d'une élection Miss France ?
J'ai décidé de me présenter en... à la fin de ma première année de médecine, en fait. Donc, j'étais j'étais déjà partie dans mon cursus médical, universitaire. Mais justement, ce cursus m'épanouissait pas complètement, en fait. Je passais beaucoup de temps à réviser. J'avais rencontré quelques amis, mais pas non plus beaucoup de monde. Mmh. Je trouvais qu'on évoluait dans un microcosme très fermé, où on parlait que de médecine et beaucoup de jeunes venaient de ce milieu-là, en fait, de parents médecins ou professionnels de santé. Et je sais pas, je trouvais que je tournais un peu en rond, en fait, pendant cette année-là. Et donc, un des autres facteurs qui m'a amené à me présenter, c'est ma grand-mère, qui était fan de du monde des paillettes et qui m'a toujours dit qu'un jour je serais Miss France. Donc ça, c'est une autre histoire parallèle, mais qui est quand même assez étonnante. Et je sais pas, j'ai jamais su pourquoi elle pensait ça, d'où ça lui venait, mais elle m'a toujours dit « je veux que tu participes à Miss France, je suis sûre qu'un jour tu seras Miss France ». Elle avait cette intuition.
Elle a pratiqué la loi de l'attraction sur toi.
Ouais, exactement, oui, je crois que c'est ça. Et bah, elle a réussi, parce qu'en fait...
C'est dingue, ça.
Elle m'a dit ça toute ma jeunesse. Donc c'est, je pense, une petite idée qui a fini par germer, ouais. C'est Inception.
Ouais, complètement.
Et en parallèle, du coup, je rentre en contact avec le comité Miss Bourgogne. Et donc pendant cette première année de médecine, je me dis en fait, je m'ennuie, quoi. Il faut que je me lance un challenge. Il faut que je fasse autre chose. Il faut que je m'ouvre à autre chose. Il faut que je rencontre d'autres personnes. Il me manquait un petit grain de folie. Ouais. Il me manquait
déjà
un peu
cet esprit où t'avais besoin de faire beaucoup de choses.
Je sais pas, j'avais besoin de créer des un peu de l'exceptionnel, ou enfin de me lancer des challenges, ou de créer de l'émotion, en tout cas, enfin que je vive des choses, en fait. Et j'ai l'impression que cette année-là, elle était un petit peu lisse, quoi, un peu plombante. Et donc voilà, donc je dis à mes parents que je vais aller au casting de Miss Saône-et-Loire, donc parce que ça commence comme ça, hein, Miss France, ça commence par des castings dans les départements. Après, tu peux être élue Miss de ton département et après, tu peux être élue Miss de ta région. Et là, tu es qualifiée à Miss France. Et voilà, et j'ai remporté du coup Miss Saône-et-Loire. J'étais qualifiée pour Miss Bourgogne. J'ai remporté Miss Bourgogne à mon grand étonnement. Parce qu'encore une fois, je voulais vivre cette aventure, mais je ne projetais pas de résultat. J'avais pas besoin du résultat pour profiter de l'aventure et pour en sortir quelque chose de positif. Et surtout, je me voyais pas du tout correspondre à Miss France. Donc en fait, je me voyais pas gagner. donc j'ai vraiment vécu cette aventure avec un peu de détachement, beaucoup de plaisir et beaucoup de spontanéité, parce que je pensais pas aller jusqu'au bout.
Tu t'es laissé prendre étape par étape.
Exactement. Je me suis laissé porter
au couronnement, quoi, finalement. Exactement. Et si tu penses à la Marine avant l'élection, enfin avant Miss France et tout ce que ça comporte, et la Marine après, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a transformé en toi?
Ça a changé beaucoup de choses, hein. Franchement, le concours Miss France, c'est vrai, est assez décrié pour plein de raisons que j'entends aujourd'hui et avec lesquelles je peux parfois être d'accord sur certains points, mais faut quand même reconnaître que c'est un accélérateur de vie.
Complètement.
Mais énorme. Mmh. C'est un peu l'histoire de Cendrillon où en une fraction de seconde, ta vie change.
Propulsé sous la lumière,
mais pas que, parce que c'est une aventure personnelle et collective qui t'amène justement beaucoup, beaucoup de confiance en toi, qui t'amène à réfléchir sur qui tu es. Quels sont tes projets, qu'est-ce que tu as envie de réaliser, quelles sont tes valeurs, tes engagements, parce que c'est des questions en fait qu'on te pose en tant que candidate à Miss France et qu'on te pose énormément après quand t'es Miss France aussi. C'est qui êtes-vous dans les interviews, sur quel sujet souhaitez-vous vous engager, comment vous projetez-vous dans 10 ans, et c'est pas des questions que tu te poses quand t'as 20 ans, non. En fait. Et donc je trouve que cette aventure m'a amené à faire une vraie introspection sur moi, et assez jeune. Donc peut-être que ça t'enlève une petite part d'innocence, mais parce que je pense que tu mûris vraiment, vraiment très, très vite. Et moi, du coup, j'ai quand même eu, on va dire, entre le moment où j'ai été élue Miss France, donc à 19 ans, et aujourd'hui, j'ai vécu 10 ans de vie tellement intense, tellement ouais. riche en expériences et en rencontres que ça m'a aussi enlevé un petit peu de naïveté et un petit peu de légèreté dans ce qu'aurait dû être une vie d'étudiante. Voilà, où, ouais. où tu fais que sortir, où tu fais plein de rencontres et où tu vis un peu au jour le jour. Moi, j'étais obligée d'être dans une organisation précise, pointue, d'un planning vraiment très chargé. J'étais accompagnée de professionnels et je rencontrais beaucoup de personnes avec des responsabilités, des personnes plus âgées. Donc forcément, voilà, ça ouais. m'a amenée à mûrir plus vite, mais je le prends vraiment comme quelque chose de très positif. Et puis bien sûr au niveau professionnel aussi ça t'apporte énormément, tu peux complètement changer de vie hein, grâce à Miss France, ça t'ouvre beaucoup de portes. Après c'est encore une fois à toi de décider de ce que tu en fais et surtout c'est à toi après de transformer un petit peu l'essai, c'est juste on te donne le ballon et après c'est à toi de travailler pour cette notion quand même de je tiens à le rappeler parce que je pense que beaucoup de gens pensent que tout est gagné quand on a été exposé comme ça et quand on a accès tout de suite à une popularité,
non, au contraire, bien sûr,
à la lumière, etc. Et en fait, non.
On a la notoriété, mais comme tu le dis très bien, il faut en faire quelque chose et qui peut te servir ou te desservir et au contraire casser ton image complètement.
Ça dépend vraiment de toi, ta manière de la traiter, de l'utiliser et de travailler justement sur ton image et sur tes projets professionnels et des projets professionnels concrets parce que sinon... tout peut être très éphémère.
Exactement. Mais exactement. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce que tu dis sur toutes les questions qu'on doit se poser, c'est ce qu'on n'apprend pas du tout à l'école. Et c'est, enfin, il faudrait tellement se poser ces questions-là en fait à cet âge-là plutôt que de se faire ses introspections à 30 ans. Tu vois, moi, j'ai fait mon introspection à 30 ans, alors que avec l'école, j'aurais pu la faire comme toi à 20 ans. Et ça, c'est vraiment tellement pas ce qu'on apprend.
Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que on devrait nous enseigner de plus nous écouter, de plus avoir conscience dans nos qualités, nos défauts,
complètement.
Pour pouvoir nous orienter vers un milieu professionnel qui nous correspond totalement, alors qu'on a tendance finalement à suivre les conseils des parents, conseils des profs, les parcours qu'on connaît un petit peu autour de nous.
Voilà.
Et alors qu'il y a tellement de métiers différents, et je pense que chacun peut s'épanouir vraiment dans son domaine, mais on est biaisé.
Ouais.
Voilà, on est biaisé pendant nos années scolaires et on est biaisé par notre entourage aussi.
Comment du coup quand tu sors de l'aventure Miss France, donc tu es encore médecin, enfin tu veux en tout cas tu aspires à être médecin, mais comment justement tu restes connecté à ce que tu as commencé à apprendre de toi, à tes valeurs, à qui t'es avec ces multiples sollicitations qui t'arrivent. Comment tu procèdes ?
Sincèrement, je pense que c'est pas facile. Et c'est normal de perdre un peu pied un moment. Parce que faut quand même réaliser que, je le disais tout à l'heure, c'est Cendrillon. En une fraction de seconde, ta vie change. Donc c'est un énorme choc, un énorme bouleversement. Et où tu peux vraiment te perdre et tu peux te laisser emporter par l'appel des paillettes et par toutes les sollicitations extraordinaires que tu as autour de toi. Donc c'est normal quand même un moment de se laisser tenter ou de se poser 1000 questions sans trop savoir vers où aller. Et ça, je pense que ça peut arriver à tout le monde dans des étapes un peu importantes de leur vie, une promotion ou quelque chose ou une rencontre qui te fait perdre un peu la tête. Je pense que j'ai réussi à reprendre pied, peut-être, parce que j'ai quand même eu cette période où je savais plus trop qui j'étais, où j'étais un peu perdue et où j'avais un peu envie de tout, j'avais envie d'aller partout. Je pense que j'ai réussi à reprendre pied grâce à mes proches, déjà. Mais quand je dis mes proches, c'est vraiment ma famille. C'est mes parents, c'est mes frères et sœurs, c'est vraiment mes meilleurs amis. C'est les personnes qui m'ont toujours connue, qui ont toujours été là, qui savent la personne que je suis dans le fond, qui m'acceptent telle que je suis et qui du coup sont capables de dire là, je trouve que là, t'as perdu pied. Je te reconnais pas dans ce que tu dis, je te reconnais pas dans ce que tu fais, dans tes choix. Attention, attention quoi. Pose-toi les bonnes questions et Donc c'est d'avoir un entourage autour de toi qui est capable de te dire quand tu vrilles.
Ouais.
Voilà. Et mes parents, moi, m'ont élevé avec la valeur du travail. Pas la facilité, vraiment la valeur du travail, de se mettre en difficulté, de ben il faut presque souffrir un peu pour réussir. Et donc je pense que j'ai toujours gardé aussi cette valeur là de me dire j'ai besoin de prouver que je peux réussir et je vais réussir par le travail. Et donc d'avoir un diplôme. Voilà, moi j'ai été élevée comme ça. Avoir un diplôme, c'est un gage de réussite. Alors aujourd'hui, j'ai un peu changé de point de vue là-dessus. Je pense qu'on peut réussir sans forcément avoir un diplôme qui a une énorme valeur.
Oui, je suis totalement d'accord aussi.
Mais en tout cas, j'ai été élevée comme ça.
Mais en tout cas, il faut travailler. Quoi qu'il arrive, la valeur travail.
La valeur travail. Mais moi, elle était associée à la réussite universitaire,
d'accord.
Scolaire.
Oui, bien sûr.
Vraiment purement scolaire, avec un diplôme qui a une valeur. Voilà, je me suis raccrochée à ça et j'ai voulu aussi justement me dire, tu avais fait des choix avant Miss France et certainement que ces choix-là te correspondent et te correspondent toujours. Donc reprends tes études et puis tu verras bien après. Et c'est aussi un conseil que m'a donné par exemple Sylvie Tellier, qui est une femme d'affaires, qui a beaucoup de recul aussi sur les différents parcours des anciennes Miss France et qui était capable de me dire, attention, tu vas avoir beaucoup de sollicitations. Tu peux réussir grâce à Miss France, grâce aux portes qui te sont ouvertes aujourd'hui. Mais c'est aussi bien, en fait, franchement, de reprendre tes études et d'avoir un diplôme. Ça te permettra de choisir.
Exactement.
D'avoir encore plus le choix, finalement.
Tu auras encore des sollicitations par la suite, de toute façon.
Et puis, à me rassurer sur le fait que, oui, on peut toujours avoir des sollicitations, que les contacts sont toujours là, que l'expérience Miss France reste à vie et qu'on en garde toujours quelque chose. Donc j'ai écouté finalement beaucoup mon entourage et en fait je me suis dit aussi que j'avais pas envie d'avoir de regrets. Et donc en fait me dire, je m'étais lancée dans les études de médecine, que j'avais commencé à réussir parce que j'étais en deuxième année. Donc j'allais toucher du doigt justement ce métier de médecin, un peu cette envie que j'avais en étant adolescente. Est-ce que je vais pas le regretter plus tard si je le fais pas? Et ça, c'était vraiment une peur aussi de me dire, je ne veux pas avoir de regrets vis-à-vis de ce métier-là. Donc voilà.
Donc tu continues médecine. Donc en parallèle, tu as une notoriété publique quand même. Donc j'imagine des demandes d'interviews, des shows encore. Et ce métier de médecin, comment ça se passe, le cumul des deux, en termes de la propre image que tu as de toi-même et l'image que peuvent avoir les autres? Comment tu réussis à gérer ces deux casquettes qui sont complètement finalement différentes?
Bah déjà, initialement, tout le monde me disait que c'était pas possible de mener les deux. Déjà, quand je me suis inscrite à Miss France, je faisais partie des profils des candidates qui faisaient des longues études. Il n'y en avait pas beaucoup.
C'est vrai.
On ne pensait pas que les deux étaient cumulables.
Et encore maintenant, parce que quand j'ai dit à mon mec avant de partir de la maison que j'allais t'interviewer, il me dit « Ah, mais Marine l'orphelin, ah, mais elle est médecin !» Tu vois, genre, on a encore dans l'image de se dire « Ah bah, une Miss France, une ancienne Miss France qui est... Voilà, aujourd'hui, tu fais plein de choses, on va en parler, mais qui est médecin, quoi. »
Donc, à l'époque, j'aime pas trop parler comme ça, ça fait un peu la vieille, mais à l'époque, déjà, on me disait que c'était pas possible de cumuler les deux. J'ai réussi à le faire, mais grâce aussi au soutien de ma faculté qui finalement a compris que je pouvais vivre une aventure exceptionnelle et qui m'a permis de la vivre pleinement et de reprendre ma deuxième année de médecine par la suite, sans trop de difficultés. Ça a été quand même très compliqué, justement, de trouver cet équilibre dans ce que j'appelle mes deux vies. Ma double vie, je l'ai toujours mentionné comme ça, mais vraiment, j'avais une double vie, en fait. Une vie d'étudiante complètement normale et que je voulais être normale. Et à côté, ma vie médiatique d'une personnalité publique avec toutes les sollicitations et les engagements. Et donc, ça m'a demandé énormément d'organisation et un peu un don de bipolarité ou de schizophrénie, d'être capable d'être deux personnes complètement différentes.
Alors, pantalon aiguille, grande robe et avec des personnalités. Et puis à côté, dans le soin, dans l'écoute.
Exactement. Et... Donc en fait, pour que ça se passe bien, déjà j'étais très organisée. Donc vraiment, j'avais un planning millimétré avec beaucoup de déplacements. Mais aussi, voilà, j'essayais d'identifier des moments où j'allais pouvoir réviser, me concentrer sur la fac. Mais aussi, je me mettais, j'étais un peu deux personnes différentes. Quand j'étais étudiante, j'essayais d'être assez discrète. C'est marrant, mais c'était ma manière à moi, en fait, de peut-être me cacher, enfin, d'être moins visible, pour être mieux acceptée parmi les autres étudiants. Donc, j'avais tendance à être habillée vraiment de manière très, très simple, justement, à pas me maquiller, à être, même parfois exagérer le trait, hein, un peu, vraiment, je me suis pas préparée du tout. Mais pour justement, on ne me caricature pas trop, parce que déjà, en fait, j'étais déjà repérable, parce que j'étais Miss France. Donc à l'hôpital, on me connaissait, on m'attendait un peu au tournant. Ce qui, moi, me perturbait beaucoup, en fait, parce que j'avais envie d'être considérée...
Bah oui, j'avais pas envie, bien de ça.
J'avais envie d'être considérée comme les autres étudiants, parce que j'avais besoin d'apprendre sereinement et de pas sentir que j'étais jugée ou épiée ou voilà, observée. Épiée, c'est peut-être un peu fort, mais observée. Et donc voilà, moi j'ai appliqué cette technique de la discrétion. Bon, ça marchait pas totalement, hein. Franchement, j'étais vraiment attendue au tournant et parfois ça a été un peu difficile parce que justement on me donnait, enfin, on me collait des étiquettes liées à tous les clichés qu'on peut associer à Miss France, et donc j'ai eu l'impression de devoir prouver encore plus que j'étais méritante, que je méritais ma place dans ces études de médecine, que j'étais motivée, que j'avais envie d'apprendre, que j'étais sérieuse, réfléchie. Donc ça m'a demandé un peu d'énergie, quoi. Et après, voilà, je prenais par contre plaisir à continuer ce rôle d'ambassadrice et à vivre plein d'expériences extraordinaires grâce à ça. Et je pense que ça m'a donné un équilibre aussi, finalement. Avoir cette vie riche me permettait d'être complètement épanouie, de pas trop déprimée quand j'étais en période de révision ou quand la fac devenait un petit peu lourde à porter, l'intensité de travail. J'avais mes moments pour souffler, mes moments de légèreté, toujours beaucoup d'émerveillement et paillettes dans les yeux.
Et ça n'atteignait pas ta confiance en toi, le fait justement parfois de devoir plus prouver d'un côté que tu étais capable et puis d'un autre côté d'être peut-être considérée comme Miss France, la jolie femme. Il y avait une question qui se posait par rapport à la confiance ou non, c'était...
Si, il y a eu plutôt un syndrome de l'imposteur, j'irais.
Ouais.
Dans le sens où, étant donné que j'étais pas tout le temps présente à la fac de par mes autres engagements et où je pouvais pas me consacrer quand même à 100% à mes études, on va dire que j'étais 80% dans les études et 20% dans le reste, j'avais un petit syndrome de l'imposteur qu'en plus on avait tendance à accentuer en justement en me faisant des reproches, en me disant t'es pas venu au cours, avec tous ces préjugés autour des Miss, justement, donc du fait que j'étais peut-être pas assez impliquée dans mes études, pas assez sérieuse. Et donc ça avait tendance à renforcer un peu ce syndrome de l'imposteur. Et donc, pendant de nombreuses années, de par cette double casquette, j'ai eu du mal à avoir totalement confiance en moi en tant que jeune médecin. Et pourtant, je m'en sortais bien, en fait. Hein. Objectivement, quand je regarde maintenant, je m'en sortais bien. J'avais des connaissances, j'étais adaptée avec les patients. Mais oui, j'ai eu longtemps ce syndrome de l'imposteur. Et inversement, et dans l'autre sens, les médias aussi avaient tendance à me dire « Oui, bon, vous faites des études de médecine, mais bon, vous n'êtes pas encore médecin, quoi.
Ouais. »
Et donc, ça renforçait ce syndrome de l'imposteur. Et je me disais vivement que j'ai ce diplôme, que je termine ce cursus pour qu'on arrête, en fait, de m'induire des doutes.
Oui, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, maintenant, tu es médecin, tu as eu ton diplôme. Tu es également influenceuse, tu es également entrepreneuse, tu es également chroniqueuse, j'en oublie. Alors déjà, première question. Comment t'as fait le choix de te construire comme ça une carrière avec toutes ces différentes casquettes? Et ensuite, comment tu t'organises? Est-ce que tu peux me raconter une journée ou une semaine type dans la vie de Marine l'Orphelin?
Alors déjà, pour répondre à ta première question, comment j'en suis arrivée là? Comment j'ai fait mes choix de carrière? Déjà, j'ai pris mon temps parce que j'étais dans un cursus universitaire long où je savais que j'aurais mon diplôme mais dans 9 ans, quoi. Voilà, parce que médecine générale, c'est 9 ans. Donc, j'ai pris mon temps. J'ai eu beaucoup de propositions pour travailler dans des médias, des propositions pour m'associer à des marques, de m'engager avec des associations. J'ai eu vraiment plein de propositions très variées. Mais je ne savais pas trop. Au début, je ne savais pas trop ce qui allait me plaire, dans quel milieu j'allais vraiment pouvoir m'épanouir. Et donc, je n'ai pas fait des choix de carrière radicaux tout de suite, en fait. Je me suis un peu laissée porter en me disant « tu verras bien ». Moi, je suis très instinctive. J'écoute mon instinct énormément et je fonctionne au ressenti. Donc en fait, si j'ai un bon feeling avec les gens qui m'entourent, avec quelqu'un qui va me faire une proposition, si je sais pas, je le sens bien en fait, et ben j'écoute un peu cet instinct et j'y vais. Donc progressivement, j'ai accepté comme ça des projets que je sentais bien, avec des gens qui pour moi étaient bienveillants, me voulaient du bien. Et voilà, et donc j'ai progressivement comme ça, j'ai commencé à construire ma carrière autour de la thématique de la santé. Parce qu'à un moment, en fait, je me suis dit, ok, c'est bien beau d'être suivie sur les réseaux, de commencer à avoir ce rôle d'influenceuse, même si j'aime pas trop ce terme, mais...
Créatrice de contenu.
Voilà, d'avoir des engagements avec des assos, mais comment je vais... À quoi ça va mener, en fait, tout ça? Quel est le sens en faire derrière tout ça? Qu'est-ce que je peux faire de bien pour moi et pour les autres aussi, en fait, grâce à ça. Et donc, à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens aimaient bien me suivre pour mon métier aussi. Ils commençaient à me poser des questions sur mon métier, à me demander des conseils, santé. Et je me suis dit, en fait, je peux, grâce à ma notoriété, à ma popularité, et au fait que du coup, j'ai une voix dans les médias, me servir de cette voix pour porter des messages de santé et pour aider les gens tout simplement à prendre soin d'eux et voilà, être en meilleure santé. Donc je me suis dit, je peux avoir un peu ce rôle de Michel Simès au féminin, en fait.
Ouais, complètement.
À parler de ce qui m'intéresse, de ce qui me tient à cœur, la santé, et de le faire d'une manière un peu différente, pas en étant simplement le médecin au cabinet, mais voilà, en étant médecin, chroniqueuse santé dans les médias. Et donc, en fait, j'ai commencé vraiment à trouver cet équilibre au fur et à mesure.
Ouais.
Où je me suis dit, en fait, ça y est, je comprends en fait le sens de tout ça. Je vais me servir de tout ça pour faire de la prévention en santé, pour faire de la santé publique.
Exactement. Voilà. Et c'est hyper intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses du moment qu'on a une vision, qu'on a une mission et que tout tourne en fait autour d'un même écosystème que tu as défini en fonction de toi. Ce que t'aimes.
Oui, donc du
et
coup,
ce
j'ai.
Qui peut servir aux autres.
Du coup, j'ai choisi aussi mes engagements avec les marques et avec les associations autour de ça.
Ouais.
Toujours. Et donc quand je regarde un peu mon parcours là avec du recul, finalement les petites briques, les petits Legos se sont emboîtés les uns après les autres et ont donné du sens à tout ce que j'avais pu vivre avant. Mais par contre, il y a un autre message aussi que je voudrais adresser, c'est le fait de bien s'entourer. Et travailler avec des personnes qui vous veulent du bien et qui sont là pour vraiment vous aider dans le développement de votre carrière. Parce que j'aurais jamais pu faire tout ça toute seule.
Ouais.
Jamais. C'était hyper difficile en fait de concilier mes études avec les stages hospitaliers, les gardes à l'hôpital, avec le reste de mon planning, mes déplacements, gérer la logistique, gérer les contrats. Franchement, ça aurait été impossible toute seule. Et j'ai vite réalisé... que justement j'avais besoin d'aide, donc mes proches ont été un soutien vraiment, et donc beaucoup de professionnels aussi dans leur secteur. Donc j'ai travaillé avec une agent qui est toujours ma manager aujourd'hui et qui m'a aidée aussi parfois à justement y voir plus clair quand parfois je pouvais être un peu dans le brouillard, à me dire je sais pas si j'ai envie de faire ça, si j'ai envie d'accepter ce contrat là, à quoi ça sert là, tel projet, est-ce que vraiment ça va m'aider, à me faire prendre du recul, à me donner des conseils très concrets et à m'aider à réaliser tout ça.
Ouais, exactement.
Donc vraiment, je pense qu'il faut savoir aussi s'entourer quand on a envie de réussir et quand on a peut-être plusieurs métiers, plusieurs casquettes et qu'on mène de front comme ça autant de projets.
Ouais, s'entourer de quelqu'un qui nous connaît bien, qui nous veut du bien pour pouvoir aller vers les projets. J'imagine c'est ce que tu fais toujours encore aujourd'hui avec de nombreuses sollicitations.
Et puis de plus en plus, je m'entoure de plus en plus. Avec plus j'ai de projets... Plus j'ai de projets, et c'est ce qui est en train de se passer maintenant, en fait. Hein. Là, vraiment, on va dire que je suis vraiment dans une deuxième phase de ma carrière où, justement, je réaccélère encore et je prends encore d'autres chemins. Et donc, plus j'ai de projets et plus il faut que je m'entoure. Donc là, je le réalise encore maintenant. Là, je suis encore en train d'étoffer mes équipes et de m'entourer d'autres personnes.
Est-ce que tu as des conseils pour t'entourer, pour ceux qui nous écoutent, pour bien t'entourer?
Ben, t'en parlais déjà, mais je pense qu'il faut avoir la même vision.
Ouais.
Tu peux avoir la meilleure personne autour de toi qui a des compétences exceptionnelles, mais qui n'a pas la même vision. Il y a un moment, ça va pas marcher. Je pense qu'il faut aussi que chacun y trouve son compte. De travailler dans une véritable collaboration. C'est pas imposer toujours ses choix, c'est pas être directive, c'est aussi savoir être flexible, écouter les conseils, les ressentis de l'autre et pouvoir s'adapter en fait. Et puis je dirais, moi je l'ai déjà dit, mais travailler avec dans un environnement positif, sentir que qu'il y a de la bienveillance entre nous. Du soutien, je pense que c'est très 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 important quoi. C'est dans l'aspect psychologique plus, mais il faut sentir les ondes positives.
Ouais, complètement. Comment tu t'organises? T'as des journées type au cabinet ou d'autres journées qui sont liées à des interviews? Comment ça se passe?
Alors actuellement, mon planning a un peu changé ces derniers temps, mais idéalement je vais te faire on va dire sur une période normale et idéale. Je travaille comme médecin, mais pour l'instant en tant que remplaçante, parce que je ne veux pas m'engager à gérer un cabinet, parce que ça serait trop de charge de travail et je ne pourrais plus mener de front mes autres projets. Donc vraiment, je travaille comme remplaçante. Je consacre 2 jours par semaine à mes remplacements de médecine générale, ce que je faisais en Nouvelle-Calédonie pendant 1 an et demi et ce que je compte refaire dans les semaines qui arrivent. Et donc, je me garde 3-4 jours par semaine pour mes autres activités, donc ma chronique au magazine de la santé, ce qui demande un petit peu d'écriture, un peu de préparation, bien sûr le direct du plateau, mes autres interventions dans pas mal de médias où je donne aussi des conférences, donc toujours sur le sujet de la santé. J'ai besoin aussi, pour mon équilibre, d'avoir des moments aussi un peu de pause, où je vais faire un peu de télétravail, mais où aussi, du coup, je vais pouvoir m'accorder des moments de sport dans ma journée ou des moments pour déconnecter, aller me balader ou faire passer des moments entre amis. Donc voilà, mes semaines ressemblent à ça. Je peux avoir des journées extrêmement chargées où vraiment je fais du 8h, 22h. Parce que j'enchaîne les rendez-vous, je fais caler un tournage au milieu, et puis après, parce que j'ai la création de contenu aussi pour les réseaux sociaux, qui du coup prend pas mal de temps.
Ouais.
Ça veut dire écriture des petites vidéos, des sujets qu'on va aborder sur les réseaux, et tournage des vidéos, donc c'est aussi beaucoup de temps. Et je peux finir très tard le soir, parce que je vais être invitée à une soirée où je vais donner une conférence. Voilà, donc...
Des journées bien remplies.
Bien remplies.
J'imagine que sur ta jeune carrière, tu as vécu des moments plus difficiles, professionnellement parlant et puis même personnellement. Est-ce que tu peux m'en partager une et m'expliquer la façon dont tu l'as dépassée, une période un peu difficile? Alors, on en parlait en préparant cette interview. Je crois que le confinement, ça a été assez ardu.
Oui, je pense que ça a déjà été une période difficile pour tout le monde. Mais beaucoup de personnes en ont tiré du positif. Ont décidé de changer complètement leur vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et ça a été une période très difficile pour moi, mais j'en ai tiré aussi du positif et ça m'a aussi permis de changer certaines habitudes de ma vie. Donc finalement, je pense à une période qui était nécessaire, on tire toujours des enseignements dans la difficulté. Donc il faut en avoir parfois. Moi, ce qui a été difficile, en fait, c'est que je me suis retrouvée, du coup, j'étais interne à l'hôpital. Et en plus, dans un service de, on appelle ça post-urgence, donc en fait, d'accueillir les malades qui passent aux urgences et donc traiter les pathologies associées. Donc post-urgence et maladie infectieuse.
Okay.
Donc forcément, un lien avec les infections et donc le Covid. Et donc, je me suis retrouvée en difficulté parce que j'avais pas l'habitude, en fait, de traiter des malades graves et de faire face à la mort. En fait, plus souvent que dans notre métier, qu'habituellement dans notre métier, on va dire. Et moi, étant médecin généraliste, j'étais dans des services de médecine, mais ou en cabinet de médecine générale, où on côtoie finalement pas autant que ça la mort. Et là, vraiment, on faisait face à des situations tragiques, en fait.
Ouais.
Et je pense que voilà, moi, je émotionnellement, en fait, je suis quelqu'un d'assez empathique et donc je ressens énormément, en fait, les émotions des autres. Et par exemple, et la souffrance des familles et la détresse des familles face à un décès, pour moi, c'était hyper, hyper difficile à gérer. Et d'autant plus qu'on était du coup dans une période fatigante où on a enchaîné un peu plus de gardes, les gardes étaient plus difficiles et où j'ai pas pu prendre des congés que je devais prendre normalement. Donc cette fatigue qui s'est accumulée. Et dans ma vie personnelle, une grosse difficulté aussi, c'est que je n'ai pas pu voir mon compagnon de l'époque, donc Christophe, qui vivait en Nouvelle-Calédonie. Et on avait prévu de se voir une semaine avant le confinement de mars, le premier. Et en fait, je lui ai dit de pas venir. Parce que je savais qu'il allait être coincé. On savait, en fait, on commençait à sentir l'épidémie. On commençait à avoir ces infos de confinement, de... peut-être de fermeture des frontières, etc. Et donc, je lui ai dit de pas venir parce que, professionnellement parlant, pour lui, ça allait être la catastrophe s'il était coincé en France avec moi. Égoïstement, j'aurais aimé qu'il soit là parce que j'avais besoin de lui et ça faisait 3 mois qu'on s'était pas vu. Mais non, c'était pas, enfin, ça aurait été trop difficile aussi pour lui. Et donc il n'est pas venu. Et tant mieux. Mais ce qui a fait que en fait, j'ai été très seule de par le confinement, les isolements et le fait de ne pas l'avoir vu. Et je ne l'ai pas vu pendant... on ne s'est pas vu pendant 7 mois.
Ah ouais, c'est énorme.
Parce qu'en fait, la Nouvelle-Calédonie avait fermé complètement ses frontières pour éviter d'être contaminée par le Covid. Donc, la Nouvelle-Calédonie était Covid-free. Donc, ils n'avaient pas du tout de Covid. Ils vivaient normalement, mais ils avaient quand même fermé leurs frontières. Et voilà, on n'a pas pu se voir. Et donc, ça a été quand même... Donc tous ces éléments cumulés ont fait que j'ai vraiment commencé à souffrir psychologiquement, à me sentir très très seule et à tomber petit à petit en fait tranquillement dans un petit syndrome dépressif, anxio-dépressif je dirais, il y a pas mal d'anxiété et une petite dépression.
Déjà de base c'était une période ultra anxiogène par les médias qui ont rajouté des caisses, alors en plus... Toi, dans ton cas, où tu étais directement en contact plus avec l'absence de ton chéri de l'époque, c'est...
Ouais, c'était vraiment, vraiment très, très dur. Et moi, qui suis quand même très positive, qui me projette toujours dans l'avenir, qui ai toujours des envies, des projets, là, je ne voyais plus, en fait. Je ne voyais plus le bout. Je pensais qu'on n'y arriverait pas avec Christophe, alors qu'on s'aimait très fort et qu'on avait pris notre rythme de vie à distance. J'avais plus envie d'être médecin. J'étais épuisée, en fait. J'étais épuisée. J'avais plus faim. Je faisais beaucoup de sport parce que moi, le sport a toujours été mon exutoire et ma petite bouée de sauvetage, un peu. Mais là, du coup, je l'ai pratiqué par excès. Parce que j'avais l'impression que c'était un peu le seul moment où je pouvais un peu m'évader et me dépenser et me vider un peu de ces énergies négatives. Mais bon, j'en faisais par excès. Donc, du coup, j'ai commencé à perdre du poids. Enfin, voilà, tu vois la petite spirale qui s'installe.
Ouais.
Et là, encore une fois, en fait, mes proches ont été un véritable élément déclencheur. Ils m'ont dit mais là, t'es toute maigre. Mais tu manges plus, qu'est-ce qui se passe? Et heureusement, ben, j'avais quand même mes amis à l'hôpital. En fait, on a tissé des liens très forts avec l'équipe soignante, avec mes collègues internes. Et elles ont été, pour le coup, à ce moment-là, vraiment mes piliers, quoi.
Tiens, quoi.
Et on a commencé à l'été arrivant, voilà, le mois de mai, le mois de juin, les beaux jours, peut-être le bout du tunnel qui arrive aussi. Ben voilà, j'ai commencé à remonter un petit peu la pente et à m'en sortir. Et finalement, à prendre du positif aussi dans cette expérience.
Ouais.
Et en fait, je pense que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai appris mon métier.
D'accord.
En fait, où j'ai appris qu'être médecin, c'était pas juste soigner, c'était accompagner. Accompagner les malades, mais vraiment, et accompagner les familles aussi. À les informer, à essayer de les aider, de leur proposer du soutien d'une manière ou d'une autre. J'ai eu besoin de faire une pause après cette période, parce que ben, c'était toujours difficile, en fait, avec mon conjoint, de se voir. Donc j'ai pris une pause, j'ai pris 6 mois de pause dans mes études, et je suis partie 4 mois en Nouvelle-Calédonie pour passer du temps avec lui, au soleil, pour faire voir autre chose.
Te vider la tête.
Me vider la tête. Et j'avais besoin de retrouver l'envie, en fait, de mes projets. Parce que j'avais perdu un peu la foi, quoi.
Ouais.
J'étais vraiment fatiguée. Du coup, j'avais perdu l'énergie. Et j'ai commencé, du coup, à remplacer en Nouvelle-Calédonie. C'est là où j'ai fait mes premiers remplacements de médecin. Et en fait, j'ai adoré. Et là, j'ai retrouvé goût à mon métier. C'est là où j'ai compris le sens de mon métier, où je me suis dit, en fait, cette période, elle t'a appris ça. Et là, tu fais des remplacements et là, tu t'épanouis, en fait. Et là, t'as ce rôle de médecin au plus proche des gens. Et voilà. Et en fait, ça m'a permis de savoir où je voulais aller, d'être sûre de moi et de retrouver vraiment confiance en mes projets.
Ok. Ce qu'on comprend bien, c'est que pour aller mieux, tu t'es beaucoup entourée de tes amis, de ta famille. Est-ce que tu as eu des aides psychologiques ? Est-ce que tu as eu des médicaments ? Enfin, on ne sait pas, il peut exister plein de choses pour aller mieux. Ça a été quoi, au-delà de ce que tu nous dis, un peu tes tips ?
En fait, j'aurais dû m'entourer de professionnels, de psychologues. D'ailleurs, il y avait une psychologue à l'hôpital, j'aurais dû lui parler. Mais non, parce qu'en fait, je voulais être forte.
Ouais.
En fait, je voulais être forte. J'avais, pour moi en tout cas, pas de raison de me plaindre. Parce que j'ai un beau métier. J'avais quand même des à côté, encore des contrats, je gagnais de l'argent. Et pour moi, j'avais pas de raison de me plaindre concrètement, en fait. Et en plus, avec, on va dire, la pression de toujours devoir montrer que tu vas bien, de montrer le positif de ta vie, de donner des conseils santé, parce que j'étais encore active sur les réseaux à ce moment-là, et beaucoup d'ailleurs, parce que en la période du Covid, on nous sollicitait beaucoup les médecins, donc je voulais pas montrer mes failles, et donc j'étais persuadée que je pouvais être forte et que je pouvais y arriver toute seule et qu'en fait je tiendrais et que j'y arriverais. Donc j'ai réussi, sauf que je pense qu'avec de l'aide, j'aurais quand même traversé cette période d'une manière plus sereine. J'aurais peut-être réussi à me reconstruire un peu plus vite. Non, j'ai alors des médicaments un petit peu, mais parce que j'y avais accès, parce que je les connaissais, donc au début des plantes, et puis après tu prends de temps en temps des anxiolytiques parce que tu dors pas de la nuit à cause du stress et de l'anxiété, donc ça m'est arrivé d'en prendre de temps en temps. Et je veux pas le banaliser parce que c'est des médicaments qui ont des effets indésirables, qui peuvent provoquer de la dépendance. Mais c'est aussi nécessaire quand t'es en phase de crise. Donc oui, le message qu'il faut dire, c'est qu'il faut absolument en parler.
Bien sûr.
Aux proches, si ça vous fait du bien, s'ils sont capables de l'entendre et s'ils sont capables de vous soutenir. Si vous avez l'impression qu'ils ne sont pas capables, vite se tourner vers un professionnel de santé. Ça peut être le médecin généraliste déjà, qui est capable d'avoir une écoute empathique et qui va aussi pouvoir vous orienter vers des médecins de son réseau ou vers des professionnels de la santé mentale, donc vers des psychologues, vers des psychiatres, vers des sophrologues qui peuvent vous donner des bons conseils. Plein de professionnels
Bien
différents.
Sûr.
Mais il faut savoir demander de l'aide.
Complètement.
Mais en fait, c'est dur d'être conscient.
Oui.
En fait, je crois que c'est ça. Tout l'enjeu, il est là, en fait. C'est d'être capable d'être conscient de ces troubles. Et au début, et pour des gens comme moi qui sont perfectionnistes, qui sont positifs, qui ont une force de caractère, quoi.
Ouais.
Je pense que je suis assez comme ça. On n'a pas envie d'accepter qu'on est en souffrance et qu'on a des faiblesses. Et moi, j'en ai fait une force après, par la suite, de ça, en fait. C'est d'être beaucoup plus consciente de mes limites et pour pouvoir justement mieux équilibrer ma vie et aller mieux, du coup, dans le quotidien, quoi. Et pas toujours essayer d'être performante et d'être toujours la plus forte, quoi.
Et quand on traverse en général une phase de moins bien, c'est comme ça, en fait, qu'on se rend compte après de nos limites. Enfin, moi, personnellement, j'ai traversé une grosse phase pas bien, et aujourd'hui, mon corps, au moindre truc, il me dit, ok, hop, là, tu vas trop loin.
Il te le rappelle. Mais t'es consciente des signaux, du coup.
Maintenant, oui, mais c'est comme toi, en fait. Au départ, quand tu l'as jamais vécu, tu te dis, non, mais attends, ça va, c'est bon, j'ai tout pour être heureuse. De quoi tu te plains, en fait?
Exactement. Et en fait, les souffrances psychologiques peuvent venir de sources complètement différentes.
Ouais.
Et parfois, c'est un petit grain de sable dans le rouage, plus un deuxième, plus un troisième, plus c'est au cumulé, alors qu'à la base, effectivement, tout va bien. Et moi, ça a été vraiment de faire face aux souffrances des autres et à ma solitude. Mmh. Voilà. Et tu vois, c'est pas... Finalement, c'est pas grand chose, quoi. Il
ouais,
y avait pas
sûr,
concrètement,
en fait,
objectivement.
Ouais, il y a pas de petit.
Le socle était toujours
aller...
là, quoi.
Ouais,
mais
ouais.
Il ne suffisait plus.
Tu t'en es pas caché aussi. Ta vie personnelle a valsé puisque tu t'es séparée de ton ancien compagnon après 9 ans. Une rupture, ça peut justement être une expérience qui est très difficile d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue aussi professionnel. Pour rebondir professionnellement, je pense à celles et ceux qui nous écoutent, qui traversent la séparation, et professionnellement, c'est très dur de continuer à exister et aller au bout de ses projets et tenir ses engagements. Toi, est-ce que tu peux me raconter cette partie de ton histoire et tes conseils pour ceux qui traversent la même chose ?
Bon, ma séparation, elle était... En même temps, logique, attendue et en même temps brutale. Je vais vous expliquer pourquoi, mais étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien se projeter, qui aime bien avoir une vie quand même un peu organisée, de savoir où je vais, enfin, je vous l'avais certainement compris, j'avais fait un peu la même chose pour ma vie personnelle et pour mon couple. Et donc, tout se passait bien, on était très amoureux. Et donc, moi, je l'ai suivi, je suis allée m'installer en Nouvelle-Calédonie à la fin de mes études, parce que c'est ce que j'avais projeté, c'est ce qu'on s'était dit. Et même, j'en avais envie, en fait. J'avais envie aussi de changer d'horizon, de découvrir d'autres choses, encore dans cette soif de découverte, de nouveauté. Et au début, magnifique expérience, heureux d'être ensemble, voilà, tout roule. Sauf qu'en fait, on s'est mis ensemble, j'étais assez jeune, j'avais 21 ans. Mmh. Lui en avait 30, donc il avait vécu plus de choses, avait une expérience qui, moi, me portait, me permettait d'apprendre, de me faire grandir. Et là, finalement, je l'ai rejoint, j'avais 29, 30 ans. Et j'étais plus la même personne, en fait. Et je suis plus la même personne que celle que j'étais à 20 ans. Et là où on était très complices, très complémentaires, et j'avais besoin de lui, je pense, à 20 ans, c'était vraiment la rencontre au bon moment, là, je me suis rendu compte qu'on prenait des chemins différents. Et lui aussi, d'ailleurs, s'en est rendu compte. Enfin, c'est pas que ma réflexion personnelle, mais on s'est rendu compte qu'on était des personnes différentes, qu'on était devenus des personnes différentes, qu'on avait d'autres envies, d'autres projets, qu'on voyait les choses plus vraiment de la même manière. Et à un moment, tu te poses d'autres questions à 30 ans. C'est celle de, là encore une fois, nouvelle introspection. De quoi j'ai envie maintenant que j'ai terminé mes études? De quoi j'ai envie pour ma vie personnelle et familiale? Est-ce que j'ai envie d'enfants? Quand? Comment? Avec qui? Est-ce que vraiment je vais pouvoir élever des enfants en Nouvelle-Calédonie, loin de ma famille? Est-ce que ma vie professionnelle, elle est finalement pas plus épanouissante ou en France métropolitaine? Alors que franchement, je m'épanouisais en Nouvelle-Calédonie aussi, mais et voilà, on a commencé tous les deux à se poser énormément de questions et à se rendre compte que on était finalement différents. Et qu'on avait envie un peu d'autre chose. Mmh. Et, Et c'est dur parce que tu t'aimes très fort.
Bah oui.
Mais tu te rends compte que tu prends un peu des chemins différents. Et il faut avoir la lucidité, peut-être, de prendre des décisions qui sont super difficiles, mais de les prendre au bon moment. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'avoir des enfants, mais j'avais pas envie de me dire que j'ai des enfants maintenant avec quelqu'un que j'aime très fort, mais peut-être ça ne fonctionnera plus dans 4-5 ans. C'est peut-être, je sais pas, hein, peut-être que c'est une erreur de réfléchir autant, mais sur des sujets qui sont aussi importants que celui de ta carrière professionnelle ou de fonder une famille dans de bonnes conditions. Je pense qu'il faut essayer de... En tout cas, si tu pressens qu'il y a déjà des difficultés, ben c'est que certainement il y en aura, en fait. Et donc, il faut agir quand on peut, en fait. Et donc, voilà, donc on a pris un peu cette décision tous les deux de se séparer malgré tout, en fait, malgré tout l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que je dis que notre séparation, elle était aussi bien logique, attendue que difficile. Parce que c'est difficile de se séparer quand t'as de l'amour, mais juste d'arrêter d'écouter son cœur, mais d'écouter la raison. Donc je sais pas quel conseil donner, parce que toutes les séparations sont différentes, les motifs de séparation sont différents. Nous, le fait qu'on soit séparés sur la raison fait que dans la souffrance de la séparation, on arrivait à relativiser et à se rappeler des raisons pour lesquelles on s'est séparés, en fait. Mais ça n'empêche pas une phase de doute énorme, parce que est-ce que c'était une bonne décision ? Est-ce qu'on va pas le regretter plus tard ? Est-ce que justement, il faut pas écouter son cœur et ne jamais écouter la raison quand il s'agit d'amour ? Aujourd'hui, je suis non, en fait. Enfin, moi, je pense pas, parce que j'ai écouté la raison, mais ça se trouve plus tard, je me dirais non, ouais, il aurait fallu que j'écoute le cœur. Moi, j'ai eu cette chance, entre guillemets, de revenir en France où, du coup, mon socle est présent. Donc mes amis de longue date, ma famille. Et donc, je suis allée chercher du réconfort auprès d'eux. Et donc voilà, j'ai été soutenue. Et donc, j'ai passé beaucoup de moments entre amis et en famille pour traverser cette période-là. Donc, se rapprocher des gens qui vous font du bien, en fait, tout simplement. Je me suis plongée rapidement dans le travail, parce que en revenant aussi ici, ça voulait dire réenclencher des projets pro que j'avais un peu mis en sourdine. Mais du coup, je sais pas si c'est forcément une bonne solution, parce que c'est un peu botter en touche, quoi. C'est un peu essayer de mettre de côté toutes ces pensées tristes et ces émotions négatives et cette souffrance. Au lieu de les affronter. Ouais. Et donc, en se plongeant à fond dans le travail, ce qui a fait que quand même, j'ai eu des reviviscences de tristesse et d'émotions très dures, quand même, pendant longtemps, en fait.
Normal.
Et je pense aussi que pour comprendre un peu plus cette séparation et tous les ressentis qui l'ont accompagné, j'aurais peut-être dû, justement, là encore une fois, me faire accompagner avant d'avoir un soutien psy. Et là, je pense que je vais le faire maintenant. Parce qu'en fait, je me dis, ça va m'aider un peu dans cette phase de changement, de bouleversement et aussi d'introspection, même si je pense que là, je suis plutôt sur la fin. Mais voilà, juste pour m'aider à comprendre, en fait, tous ces mécanismes, tout ce qui s'est passé, et m'aider à en tirer, encore une fois, des leçons pour la suite. Voilà.
Bien sûr.
Mais là, franchement, ça va mieux, quoi. Le temps aussi fait son œuvre. Et encore une fois, je sais pourquoi j'ai fait ces choix-là. Et en plus, j'ai fait des belles rencontres par la suite, donc c'est du positif.
Bien sûr. On va finir par des questions bien-être, avant de finir par les petites questions que je pose toujours à la fin de chacune de mes interviews. Tu dis dans une interview, je mets du plaisir dans ma vie en faisant des choses qui sont bonnes pour le moral. Comment tu fais pour concilier, en fait, bien-être et ton rythme de vie effréné ? Est-ce que tu as des tips, des conseils ?
Oui, quelques conseils, mais qui sont assez évidents, mais c'est peut-être bien de les entendre quand même. Après, c'est voilà, c'est très personnel. Après, la question du bien-être et de l'équilibre à trouver. Donc, je pense que chacun, voilà, doit identifier. On en parlait, les signaux de stress de son corps, les signaux de stress psychologique. Identifier aussi ce qui nous fait du bien. Vraiment, si c'est des loisirs, c'est du sport. Donc, moi, je sais aujourd'hui ce qui me fait du bien. Et donc, déjà, j'ai besoin de calme. Donc, ce qui signifie me mettre au calme concrètement. Donc quand on vit dans une ville aussi bruyante que Paris, bah c'est tout simplement parfois rester à la maison et éviter voilà d'aller dans les endroits hyper bruyants. Ça veut dire aussi enfin m'entourer, j'en ai déjà parlé, mais m'entourer des personnes qui me font du bien. Donc bah passer des moments avec avec les amis, mais je vais préférer du coup faire des moments chez moi que de faire des moments parfois au restaurant ou en soirée. Ça va être m'accorder des moments de pause dans mes journées. Et donc, pour ça, en fait, je prends des rendez-vous dans mon planning où je mets.
Super.
Bah là, c'est déj en solo.
Avec moi-même.
Ou c'est, voilà, avec moi-même. Ou c'est une soirée où vraiment je bloque, où je refuse des événements parce que je veux avoir une soirée au calme. Ça va être prendre des rendez-vous de sport dans mon planning parce que moi, le sport me fait énormément de bien. Et j'en ai toujours besoin et c'est vraiment un pilier. Donc, je me prends des rendez-vous de sport dans mon planning qui sont pris voilà, tous les lundis. Un peu, je fais le point. Quand est-ce que je vais pouvoir faire du sport dans ma semaine? Ok, bah, je vais les mettre là. Je le disais, du coup, refuser des choses aussi parce que sinon, j'en fais trop. En fait, je suis toujours à fond tout le temps. Je suis hyperactive, donc je suis toujours à fond. Donc, c'est apprendre à dire non. Ça, c'était un gros travail de ces dernières années. C'est vraiment apprendre à dire non, mais pour mon bien, et pas penser que tu rates quelque chose et que tu regrettes.
Ouais.
Parce que ça te fait du bien, donc c'est positif. Donc voilà, je dis beaucoup plus non à beaucoup de sollicitations, mais je l'explique. Je dis pas non, je peux pas. J'ai un planning déjà trop chargé. On pourra le faire éventuellement plus tard. On pourra en reparler plus tard. Quels conseils je pourrais donner d'autres? Après, c'est des petites choses à faire qu'on peut faire facilement dans son quotidien. C'est faire des exercices de respiration, c'est faire de la méditation, c'est avoir une petite routine du soir qui vous fait du bien, boire une petite tisane, lire. Voilà. Mais tout ça est très personnel. Donc, tout ce que je vous raconte là, c'est tout ce que j'ai mis en place moi.
Oui.
Mais ça peut ne pas vous convenir. C'est vraiment, c'est à tester.
Ouais. Ouais, bien sûr. T'as pas des gros conseils alimentation, sommeil, sport, santé mentale qui peuvent s'appliquer à tous et qui toi
J'en ai plein. J'ai même écrit un livre.
Voilà.
J'ai même écrit un livre sur tous ces sujets-là.
Voilà. Tu vas pas écrire le livre, bien sûr. On mettra dans les notes de l'épisode, mais 2-3 qui te parlent, qui te viennent à l'esprit là maintenant tout de suite.
Alors, du coup, vous retrouverez plein de conseils pratiques et comment trouver votre équilibre dans mon livre qui s'appelle En pleine forme,
voilà.
Dans lequel je traite de santé physique et de santé mentale.
Parfait.
Et je fais vraiment le lien entre les deux. Le livre commence par le chapitre du sommeil, parce que pour moi, c'est le plus important, en fait. Donc, le sommeil. Donc, en fait, juste... pensez à votre sommeil. Arrêtez de le mettre de côté.
Mon fils, il faut qu'il écoute cette émission.
Ouais, alors je sais que c'est compliqué quand on est parent, c'est vrai. Mais par exemple, ça veut dire profiter des siestes des enfants pour aussi se reposer. Ou de temps en temps, arriver à le faire garder ou s'autoriser à le faire garder pour justement prendre un peu de repos. Mais le sommeil, avant tout, il faut arrêter en fait de dire « c'est pas grave, cette semaine, je vais pas beaucoup dormir, je dormirai ce week-end ». Non, en fait, votre sommeil permet de vous réguler vos émotions, diminuer votre niveau de stress, d'équilibrer votre métabolisme, donc de réguler votre poids. Enfin, il y a tellement de bénéfices que c'est... la liste est longue. Donc vraiment, avoir un sommeil régulier, déjà, et prendre soin de son sommeil. Sur l'alimentation, je pense que manger sainement, c'est bien aussi pour se sentir bien, parce que apporter les bons nutriments permet aussi à son corps de bien fonctionner, aussi à son psychisme de bien fonctionner. Donc il faut aussi manger sainement, mais après il faut aussi se faire plaisir. L'alimentation, c'est aussi un gros facteur de plaisir dans notre vie. Donc voilà, trouver votre équilibre entre manger sainement et vous faire plaisir. Sur le sport, je l'ai dit, mais je le répète, le sport, c'est aussi un énorme élément de bien-être. On le sait aujourd'hui, ça a prouvé. Enfin, le sport a prouvé ses bénéfices aussi dans la régulation de l'anxiété, dans le traitement des syndromes dépressifs. Donc en fait, ça fait énormément bien à la tête, même si les gens en sont pas forcément conscients initialement, mais quand on commence à se mettre dans le sport, on ressent vraiment les bénéfices. Et en plus, ça engendre un cercle vertueux. Quand on est sportif, on a envie de bien manger, on a envie de bien dormir parce qu'on a envie d'être performant. On sait qu'on a un entraînement, donc ce qui signifie être en forme. Donc d'être actif, d'être sportif permet de créer ce cercle vertueux aussi. Après, consulter, on en a parlé, mais consulter des professionnels, des gens qui vont pouvoir vous accompagner dans cette remise au sport, dans gérer votre anxiété. Donc, les psys éventuellement. La liste est très longue, mais
et
des conseils concrets, j'en ai plein.
On retrouvera de toute façon le livre avec tous les conseils. Quels sont les facteurs clés de ton succès, selon toi ?
C'est dur de répondre à cette question en toute humilité. Les facteurs clés de mon succès...
L'entourage, on l'a compris.
L'entourage, oui.
Le travail.
D'être fidèle à mes valeurs.
Ouais.
Voilà, parce que j'ai des valeurs qui sont importantes pour moi, c'est-à-dire parler de sujets engagés, de me faire plaisir aussi dans ce que je fais, d'en tirer des leçons à chaque fois, de l'apprentissage. Donc, je choisis mes projets aussi dans ce souhait de progresser, d'avancer. Et puis de savoir, je sais pas, peut-être savoir être humble aussi, justement, savoir, enfin, connaître ses atouts, mais aussi connaître ses défauts, ou en tout cas ses zones, les zones dans lesquelles on peut encore progresser, et donc, avoir envie d'apprendre, avoir envie de devenir la meilleure version de soi-même aussi au niveau pro, quoi. Donc je pense que je reste à ma place, quoi, en fait.
Ouais.
Voilà, je reste à ma place. Je sais des choses, je suis experte dans certains sujets, mais dans d'autres, je suis encore novice, débutante, et donc, j'ai
t'es ouverte à l'apprentissage.
Exactement, donc j'ai envie de m'entourer des gens qui vont m'aider, qui vont me faire apprendre. Et voilà, je pense que ça se ressent. Et peut-être aussi un peu de fidélité, je dirais. C'est une valeur aussi qui me tient à cœur. Et donc, j'aime bien travailler toujours avec les mêmes personnes et on se fait confiance. Et fidèle en amitié, fidèle en amour. Et je sais pas, du coup, je pense que ça porte ses fruits.
On va finir par des petites questions. L'idée, c'est d'y répondre avec des réponses assez courtes. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet mais qui n'osent pas ?
Qu'on a beaucoup d'idées limitantes, de barrières limitantes que la société nous impose ou que notre entourage nous a imposé ou qu'on s'impose à nous-mêmes sans en être très conscient. Donc en fait, je pense de s'inspirer des parcours des autres qui vous montrent que tout est possible, il y a plein d'histoires autour de nous. Et donc, d'oser s'entourer, de s'inspirer de ces parcours-là et puis tout simplement d'oser. En se disant que si on n'y arrive pas, on apprend, quoi qu'il arrive.
Quelles sont tes citations préférées ?
Justement, mes citations préférées, il y a celle-ci. Soit je réussis, soit j'apprends. Et j'aime bien cette citation. Je trouve qu'elle est très, très vraie. Elle me représente totalement. J'aime bien aussi « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Vous l'avez compris. Et peut-être, il y a des choses impossibles tant qu'on ne les a pas tentées. En gros.
Ouais.
Enfin,
tant que quelqu'un
quelqu'un le réalise.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ouais, tout à fait. Est-ce que tu aurais une ressource qui t'inspire ?
Oui, enfin, moi j'écoute pas mal de podcasts, effectivement. Donc, je sais pas, ça peut être des podcasts sur des parcours, justement, qui sont inspirants. Donc, celui de Pauline Léniaud, par exemple. Ou sur le côté plutôt entrepreneuriat, ça va être Génération Do It Yourself. Bon, ils sont très classiques, très connus,
mais ils sont super. Ouais.
Et puis, je sais pas, dans le sport par exemple, pour ceux qui veulent se remettre à la course à pied ou comprendre un peu tout ce que ça peut vous apporter, et c'est dans la tête d'un coureur.
Ok, très bien. Le conseil que l'on t'a donné et que tu aurais aimé connaître avant de te lancer dans tous tes projets, en fait, finalement.
C'est peut-être justement que la réussite ne passe pas que par la réussite scolaire pure, et qu'on peut, et qu'en fait la réussite c'est juste s'épanouir professionnellement et personnellement, et donc ça peut arriver par plein de chemins différents, et qu'on peut en fait avoir plusieurs casquettes et plusieurs métiers différents, et c'est justement ça qui peut nous épanouir.
Un échec que tu aurais vécu et une leçon tirée.
Il y a eu plusieurs périodes difficiles dans ma vie, mais que ce que j'en ai tiré, c'est que justement, je pense que qu'on s'en sort. En fait, qu'on s'en sort, quoi. Et moi, je fais énormément confiance au destin, et je pense que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites, en fait, et donc j'écoute mon instinct, voilà. Donc j'ai vécu ma séparation comme un échec, et finalement, je pense que c'était au contraire un beau chapitre de ma vie, et qui m'a amenée vers un nouveau beau chapitre de ma vie.
Génial. Ce podcast encourage chaque personne à devenir acteur de sa vie, une personne qui t'inspire et que tu aimerais entendre sur le podcast.
J'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent. Je trouve ça très difficile de répondre à cette question. Je ne sais pas. J'aimerais entendre dans ce podcast soit une sportive de haut niveau, c'est pas une Clarisse Agbegenou, qui est du coup une grande judokate française, mais qui parle beaucoup de sa maternité, comment elle a géré sa maternité avec le sport de haut niveau, ou une journaliste Léa Salamé.
Ah ouais, génial.
Qui quand même a su faire sa place et que je trouve qu'il a un énorme charisme, et
ouais, elle est dingue.
Qui est tellement pertinente, tellement intelligente. Et voilà, j'aimerais savoir comment elle a réussi à construire cette confiance en elle pour arriver là où elle en est.
Génial. Et ma dernière question, c'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie, être acteur de sa vie ?
Pour moi, être acteur de sa vie, je pense que c'est avant tout prendre des décisions. Pendant longtemps, j'ai cru que choisir, c'était renoncer. Je le voyais comme ça. Et en fait, je pense que choisir, c'est avancer. Et donc, je pense qu'il faut absolument être capable de prendre des décisions qui parfois sont pas faciles et qui sont dures et qui font peur. Mais c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez avancer et d'arriver à la personne que vous voulez être.
Merci beaucoup, Marine.
Je t'en prie, avec plaisir. Merci à toi.
Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.